Merci d'écouter RFI, midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour à toutes et à tous.
À la une, le sort de l'Ukraine au menu de la conférence sur la sécurité de Munich.
Le grand rendez-vous diplomatique en Allemagne qui va s'ouvrir officiellement là dans quelques minutes. Le président Zelensky, le président ukrainien, devrait y rencontrer le vice-président américain après le coup d'accélérateur de Donald Trump pour des négociations de paix. La Russie n'est pas représentée. Œil pour œil, taxe pour taxe, Donald Trump ouvre la voie à des droits de douane réciproques. L'Union européenne promet de réagir fermement et immédiatement. Taïwan, vous l'entendrez de son côté, semble prêt à céder. La Croix-Rouge très inquiète du sort des otages retenus dans la bande de Gaza. Le Hamas doit en principe libérer 3 otages israéliens demain en échange de prisonniers palestiniens.
RFI.
À suivre aussi un cadeau empoisonné en ce jour de Saint-Valentin. La fête des amoureux, selon une enquête en France, les bouquets de fleurs sont contaminés par des pesticides. Et puis les coups de cœur de l'année aux victoires de la musique ce soir, entre grands noms de la chanson française et jeunes révélations, les paris sont ouverts.
L'effervescence diplomatique donc à Munich.
Pour cette conférence annuelle sur la sécurité qu'on appelle parfois le Davos de la défense dans le sud de l'Allemagne. Rendez-vous très particulier cette année avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne, on vous retrouve en direct. Le conflit en Ukraine s'impose pour cette édition, notamment après le coup de fil entre le président américain et son homologue russe pour des négociations directes pour mettre fin au conflit ukrainien.
Oui, en effet. Donc, on attend avec impatience le discours du vice-président américain Jilly Evans dans 90 minutes. Il permettra peut-être d'y voir plus clair sur le positionnement de l'administration Trump sur l'Ukraine, alors que les événements, vous le rappeliez, se sont accélérés. Les Européens s'inquiètent d'être mis sur la touche dans ce processus éventuel ou de voir un accord trouvé avec Moscou aux dépens de l'Ukraine. Jilly Evans, sur le premier dossier, a estimé ce matin à Munich que, bien sûr, l'Europe devait être impliquée dans un accord éventuel, une réaction sans doute aux nombreuses critiques et inquiétudes émises contre une négociation bilatérale entre Washington et Moscou. Sur le sort de l'Ukraine, J.D. Vance a affirmé dans une interview au quotidien américain Wall Street Journal que les États-Unis pourraient imposer des sanctions à Moscou et recourir à une éventuelle action militaire si la Russie n'acceptait pas un accord de paix qui garantirait l'indépendance de l'Ukraine à long terme. Là aussi, cela pourrait être répondre à une exigence de Kiev et de ses alliés européens. Des premières négociations à Munich semblent en tout cas exclues, alors qu'hier soir, Donald Trump annonçait la présence de responsables russes à la conférence sur la sécurité. Le président ukrainien Zelensky, qui est sur place, vient de déclarer que l'Ukraine parlera à la Russie quand Washington, Kiev et ses alliés auront une position commune.
Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne, on suivra avec vous donc l'ouverture de cette conférence de Munich. Alors parmi les points de désaccord sur l'avenir de l'Ukraine, il y a une éventuelle adhésion à l'OTAN. Il n'en est pas question pour Moscou, ce n'est pas réaliste selon Washington. Mais pour la Grande-Bretagne, l'Ukraine est bien sûr sur une voie irréversible vers l'OTAN, c'est ce qu'a dit le premier ministre Keir Starmer. Il l'a répété au président ukrainien Zelensky. Emeline Vin, on vous retrouve à Londres. Ces propos de Keir Starmer, c'est un message très fort envoyé par la Grande-Bretagne.
Oui, avec cette déclaration, Keir Starmer réaffirme le soutien britannique inébranlable à l'Ukraine et à l'OTAN, se rapprochant ainsi de la position européenne. Des mots forts qui pourraient coûter cher au Royaume-Uni. En prenant ouvertement position contre les États-Unis, l'allié historique, Keir Starmer risque d'affaiblir la relation spéciale entre les deux puissances. Même si les deux administrations partagent assez peu sur le plan politique, Londres espère encore éviter l'imposition de droits de douane. Une position risquée donc, mais qui permet aussi au gouvernement britannique de rappeler son attachement à l'OTAN, avec l'idée de devenir une sorte de pont entre les contributeurs généreux et les plus modestes, et ainsi se rapprocher de ses partenaires européens après un certain éloignement ces dernières années. Ce soutien à l'Ukraine, cependant, il ne sort pas de nulle part. Depuis le début de la guerre, tous les premiers ministres britanniques, conservateurs et travaillistes, ont mis un point d'honneur à rencontrer Volodymyr Zelensky. Le mois dernier, le président a d'ailleurs signé avec Keir Starmer un partenariat sur 100 ans pour garantir la sécurité et la reconstruction de l'Ukraine.
Emeline va en direct de Londres juste avant son arrivée à Munich. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir frappé l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un drone. Cette structure de confinement du réacteur accidenté, selon Kiev, cela a provoqué un incendie. Aucune hausse des radiations n'a été constatée pour l'instant, selon l'Ukraine. La Russie a démenti cette frappe.
L'alliance entre Américains et Européens mise à mal aussi par les droits de douane réciproques annoncés par Donald Trump.
Cheval de bataille du président américain. Selon lui, si un pays impose une taxe, eh bien on leur impose exactement le même niveau. C'est aussi simple que ça, dit-il, au nom de l'équité dans les relations commerciales. Alors il n'y a pas encore d'agenda précis, mais la Commission européenne a déjà promis de réagir fermement et immédiatement à des droits de douane réciproques qualifiés d'injustifiés. Face à cette menace, Taïwan, en revanche, semble prêt à céder. Il faut dire que l'indépendance de l'île est menacée par la Chine. Son président, Lai Ching-te, est qualifié par Pékin de dangereux séparatiste. Et il cherche donc à s'attirer les faveurs de Washington, Nicolas Rocca.
Taïwan a volé notre commerce de semi-conducteurs. Quelques heures après ces accusations de Donald Trump et une menace de hausse de 100% des droits de douane sur les exportations de puces électroniques taïwanaises, Lai Ching-te a cherché à désamorcer toute tension avec Washington.
Ce qui est important, c'est que le gouvernement taïwanais veut renforcer la coopération avec les États-Unis dans le développement de l'intelligence artificielle, la fabrication de semi-conducteurs et créer une nouvelle ère de partenariat économique stratégique entre Taïwan. Taïwan et les États-Unis.
L'entreprise taïwanaise TSMC, leader mondial sur les semi-conducteurs de pointe, doit déjà construire 3 nouvelles usines aux États-Unis. Mais pour s'attirer les faveurs de Washington, Lai Ching-te a annoncé une initiative de partenariat démocratique mondial, excluant de fait la Chine, afin de solidifier les chaînes d'approvisionnement de cette technologie essentielle. Autre secteur clé, autre annonce du président taïwanais, la défense.
Nos dépenses de défense militaire représentent 2,5% du PIB. On va d'abord les augmenter à 3% avec un budget spécial.
Une hausse qui devrait se traduire en achat d'armes américaines. Les États-Unis sont de loin les premiers fournisseurs d'équipements militaires de Taïwan.
Sur le plan intérieur aux États-Unis, la vague de licenciements de fonctionnaires a commencé.
Oui, c'est brutal. La presse parle d'une véritable purge au sein de l'administration fédérale. Environ 200 000 fonctionnaires sont concernés par ces licenciements. À Rimlipol, il s'agit notamment de personnes en période d'essai.
Exactement. La mauvaise nouvelle est tombée par email ou par vidéo pré-enregistrée. Certains employés n'ont eu que 30 minutes pour rassembler leurs affaires et quitter leur bureau. Le département des anciens combattants est le plus touché, avec plus de 1000 personnes en période d'essai limogées en une seule journée. Hier, jeudi, on ignore encore combien des plus de 2 millions de fonctionnaires fédéraux seront concernés par cette vague de licenciements sans précédent. Le président Donald Trump veut une administration plus efficace, mais aussi éliminer ce qu'il qualifie de deep state, l'état profond, à savoir ces fonctionnaires qui jugent déloyaux. Les licenciements, vous l'avez dit Charlotte, sont brutaux. Des lettres publiées dont la presse évoque des compétences et performances jugées insuffisantes. Et face à cette réduction drastique d'effectifs, eh bien la contestation monte. Après les actions syndicales, une dizaine de procureurs démocrates ont porté plainte hier devant un tribunal fédéral à Washington. Ils remettent en cause l'autorité d'Elon Musk et de sa commission Dodge à l'origine de cette offensive destinée à réduire les dépenses publiques.
À Rimlipold, Israël vient de le confirmer. L'État hébreu a reçu les identités des otages qui doivent être libérés par le Hamas demain samedi, comme le prévoit l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Cet accord mis à rude épreuve ces derniers jours. Abla Jounaïdim, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Vous êtes en direct donc des libérations attendues, alors que le CICR, la Croix-Rouge, dit très inquiète de la situation des otages dans la bande de Gaza, de leurs conditions de vie.
Oui Charlotte, cette semaine, on a entendu davantage de récits plus détaillés sur les conditions de détention des otages à Gaza. Plusieurs ont parlé dans les médias ces derniers jours. Tous les otages ont été victimes, semble-t-il, de mauvais traitements à des degrés divers, maintien dans le noir, dans l'isolement absolu et dans de très petits espaces par exemple, pour certains privés de nourriture et d'une hygiène minimale. Cette semaine, on en a appris davantage sur le sort de Alon Ohel, un jeune homme toujours captif et qui a eu 24 ans lundi dernier. D'après des hommes relâchés samedi dernier dans un état squelettique, il serait blessé à l'œil et au bras, enchaîné dans un tunnel. De quoi renforcer l'inquiétude des proches cette semaine qui ont bien cru l'accord de cessez-le-feu fragilisé. Finalement, il semblerait que les pourparlers en coulisses, aient porté leurs fruits et que donc les termes de l'accord seront respectés. Vous l'avez dit, Israël affirme avoir reçu la liste des 3 otages libérables par le Hamas ce samedi. Parmi eux, peut-être y aura-t-il Ohad Yahalomi, le dernier Français détenu à Gaza. C'est tout ce que ses proches espèrent.
Abla Jounaïdi en direct de Jérusalem. J'ajoute que la branche armée du mouvement palestinien djihad islamique, allié du Hamas, indique de son côté qu'elle va libérer un otage également israélien de Gaza ce samedi. Dans l'est de la RDC, le M23, appuyé par le Rwanda, continue à avancer le long de la route nationale qui relie Goma à Bukavu. Des combattants de l'AFC M23 ont été aperçus depuis la nuit dernière à une dizaine de kilomètres de Kavumu, où se trouve le principal aéroport de la province du Sud Kivu. On y revient dans Afrique Midi, bien sûr, dans une vingtaine de minutes. Le pape François, hospitalisé à Rome, annonce du Vatican. Le pape, âgé de 88 ans, il souffre d'une bronchite depuis plusieurs jours. Il a été hospitalisé dans un établissement spécialement aménagé, notamment avec une chapelle.
En ce 14 février, jour de Saint-Valentin, offrir des fleurs pourrait être une fausse bonne idée.
Jolie attention pour la fête des amours. Sauf qu'une enquête publiée par UFC Que Choisir y fait réfléchir à deux fois. Selon le magazine de protection des consommateurs, les bouquets de fleurs sont contaminés par des pesticides retrouvés donc dans des échantillons. Certains de ces pesticides sont même interdits en Europe, mais bien présents sur ces bouquets. De quoi mettre en péril des personnes qui manipulent ces fleurs, selon l'enquête, hein, Simon Rosé. Donc il s'agit d'acheteurs, mais surtout des fleuristes.
Et oui, sur les bouquets de roses, gerbera, chrysanthèmes, examinés, tous contiennent des traces de pesticides, jusqu'à 46 molécules différentes sur un seul et même bouquet. Des produits parfois interdits en Europe en raison de leur dangerosité. On trouve en effet des substances cancérogènes ou encore des perturbateurs endocriniens. Néanmoins, l'effet sur la santé humaine de leur présence sur ces fleurs reste encore à préciser. Le gouvernement français a confié il y a 2 mois à l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, la charge de mener une étude pour y voir plus clair. Une réponse au témoignage d'une fleuriste dont la fille est morte d'une leucémie à la suite d'une exposition in utero aux pesticides présents sur les fleurs que manipulait sa mère. Le lien avait alors été établi par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, une première. Alors que 85% des fleurs vendues en France sont importées, il n'existe aujourd'hui aucune loi qui réglemente la présence de telles substances sur les bouquets. Les conclusions de l'étude de l'ANSES seront révélées l'année prochaine. En attendant, l'UFC Que Choisir réclame la mise en place d'un cadre strict sur l'usage des pesticides et l'interdiction d'importer des fleurs traitées avec des produits interdits en Europe.
Simon Rosé, bon ben il reste les chocolats.
Ou alors, c'est pas plus mal.
Ou alors la musique, et comme chaque année depuis 40 ans en France, eh bien, on va vibrer ce soir pour les chanteurs, compositeurs et musiciens de l'année avec les victoires de la musique, les récompenses annuelles du milieu. Les jeunes talents seront à l'honneur comme Santa ou Alyosha Schneider, mais la cérémonie va récompenser également des icônes du showbiz français d'autres générations. Olivier Roger.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser.
50 albums, 40 millions de disques vendus, 64 ans de carrière, mais aucune récompense. Sylvie Vartan verra ce soir cette injustice réparée en recevant une victoire d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. À 80 ans, celle qui a tiré sa révérence en janvier dernier côtoiera un vieux copain, Eddie Mitchell.
Je suis pas comme Hitty, je veux rester ici.
82 ans, 40 albums, Monsieur Eddy est le symbole d'un artiste qui a su évoluer pour durer. On souhaite la même longévité aux jeunes pousses de la chanson française qui briguent ce soir les précieuses statuettes. Santa et son titre Recommence-moi est en lice dans 4 des 9 catégories. Côté révélation, Solane, Stiletto, Yoa chez les femmes, Alyosha Schneider, Pierre Garnier et Lucky Love chez les hommes brigueront la récompense. Si, comme chaque année, on peut déplorer une sélection de moins en moins riche, des oublis et autant de critiques, on peut se réjouir de voir figurer en lice pour le concert de l'année les cérémonies des Jeux Olympiques qui ont tant marqué les esprits. Enfin, la soirée sera présidée par le chanteur Alain Souchon. Lui a déjà remporté 10 statuettes dans sa carrière.
Carrément méchant, jamais content. Des déjà, mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires qui me trouvaient carrément.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci Charlotte Hydrac.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Il est 13h15 à Paris. Et on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Christophe Dirigeant.
Bonjour Anne.
Du football pour commencer. Coup d'envoi de la 22e journée de Ligue 1 ce soir avec Brest déjà de retour sur le terrain face à Auxerre.
Eh oui, pas vraiment le temps de souffler pour les Bretons. Plus très loin de la sortie après la claque 3-0 donnée par le PSG mardi en barrage aller de la Ligue des Champions. La joue encore endolorie. Les Brestois doivent se reconcentrer sur leurs objectifs en championnat où leur 8e place leur permet de croire de nouveau à un destin européen la saison prochaine. Et en Coupe de France où ils affronteront Dunkerque en quart de finale le 26 février, mais physiquement, en tout cas aujourd'hui, l'entraîneur Eric Roy ne cache pas que l'enchaînant est un petit peu rapide.
Pour les jambes peut-être un peu vite, pour les têtes des fois c'est pas plus mal de rejouer rapidement aussi, donc voilà, je pense que le match de Paris, ce qui est douloureux c'est surtout le score, parce que 3-0 ça fait encore lourd, et sincèrement par rapport aux efforts, par rapport aux attitudes des garçons, l'état d'esprit qu'ils ont mis dans ce match-là, on a le sentiment de ne pas être trop récompensé, mais voilà, il faut continuer à avancer maintenant. C'est pour ça que ce match-là est très important d'Auxerre.
Éric Roy, Brest-Auxerre, 19h45, TU, la Ligue 1 et le nouveau litige, vous le savez, entre la Ligue de football professionnelle et DAZN autour du paiement d'une partie des droits de diffusion saisis par les deux parties. Le tribunal de commerce de Paris rendra son jugement le 28 février. L'opérateur britannique n'a pas réglé la totalité de l'échéance prévue, invoquant notamment le recours massif au piratage par les téléspectateurs, piratage qui lui est évidemment préjudiciable. La LFP, elle, réclame le versement intégral de la somme.
Pas de club français concerné hier par les barrages allés de Ligue Europa où deux équipes se sont imposées à l'extérieur.
Notamment l'Ajax Amsterdam, vainqueur chez les Belges de l'Union Saint-Gilloise 2-0 grâce notamment à un but de son tout jeune milieu de terrain Jordi Mukio d'une belle reprise de volée à 16 ans et 349 jours seulement. Le Belge devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du légendaire club néerlandais pour son plus grand plaisir.
C'était un rêve hein, depuis petit, à que 16 ans faire mes débuts en Europa League et marquer dans mes débuts, ça peut faire plaisir. Je trouve qu'on a bien joué. Le premier mi-temps, on était un peu en train de chercher, mais le deuxième mi-temps, ça allait bien. On était dans le rythme. Pelouse aussi un peu pas mal, hein, mais on a gagné quand même, c'est ça le plus important.
Jordi Mukio, interrogé par Canal+. L'autre bonne opération, loin de sa base, c'est la Real Sociedad qui l'a fait en allant gagner chez les Danois de Midtjylland 2-1. Parmi les autres résultats, la nette victoire de Fenerbahçe sur Anderlecht 3-0 et le match nul, un but partout entre le FC Porto et l'AS Rome. Le tennis, demi-finale du tournoi féminin de Doha. La numéro 2 mondiale et triple tenante du titre, Iga Świątek, affronte tout à l'heure la Lettonne Yelena Ostapenko. L'autre duel opposera l'américaine Amanda Anisimova et la russe Ekaterina Alexandrova.
Changement de décor avec la suite des mondiaux 2025 de ski alpin en Autriche. Aujourd'hui, c'est le jour du slalom géant masculin.
Et c'est le Norvégien Timon Hogan qui a été le plus rapide ce matin sur la piste de Svalbard à l'issue de la première manche. Il a devancé les Suisses Loïc Meillard de 2 petits centièmes et la légende de la discipline Marco Odermatt de 24 centièmes. La seconde manche vient de démarrer. Et puis, autre mondiaux, ceux du biathlon Lenzerheide en Suisse avec le sprint féminin à suivre cet après-midi. La tenante du titre de la spécialité est française, Julia Simon. Les Bleus espèrent poursuivre sur leur lancée. Après l'or obtenu mercredi en ouverture dans l'épreuve du relais mixte par équipe.
Merci Christophe Diremzian.
RFI. Le Monde à midi.
Nous en parlions tout à l'heure dans le journal. L'avenir de l'Ukraine est au cœur de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne, dans un contexte de grande inquiétude côté européen après l'annonce de négociations immédiates avec la Russie par Donald Trump. Bonjour Gérard Haro.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis, ancien représentant permanent de la France à l'ONU. Merci d'être avec nous. Alors, depuis quelques heures, la ligne américaine n'est pas si claire. Il y a eu cette semaine les gestes très forts du président américain, ce coup de fil à Vladimir Poutine. Et puis, là, plus récemment, des propos du vice-président dans la presse. J.D. Vance, lui, insiste plus sur les moyens de pression des États-Unis. Est-ce que c'est juste de l'affichage, selon vous ? Est-ce qu'il y a une volonté véritable d'infléchir la position américaine ?
Non, je pense que la position américaine, vous savez, elle est très claire depuis des mois. Et ce qui est surprenant, c'est la surprise des Européens. Trump a dit tout de suite qu'il voulait négocier avec Vladimir Poutine directement. ce qui était implicitement par-dessus la tête des Ukrainiens et dessus la tête des Européens. Ensuite, nous avons connu plus ou moins les grandes lignes, les termes de la négociation du côté américain qui ont été confirmés par le secrétaire à la Défense, Hegseth, devant les ministres de la Défense de l'OTAN, c'est-à-dire les Russes gardent les territoires qu'ils ont conquis et la question porte sur les garanties du reste de l'Ukraine. Et voilà, on entre dans une négociation et ce que dit J.D. Vance, le vice-président, en gros, c'est de dire aux Russes, vous savez, on a quand même des instruments, on peut faire mal si vous ne voulez pas négocier. Parce que, d'une certaine manière, les États-Unis se présentent en demandeurs face à la Russie.
Ça veut dire que c'est la Russie qui a la main pour l'instant ?
Oui. La Russie a la main parce que sur le terrain, les troupes ukrainiennes sont à la peine. Elles se défendent, elles se battent courageusement, mais la Russie a une évidente supériorité militaire. Les chiffres sont sans conteste, et de surcroît, les Américains veulent négocier et disent qu'ils veulent mettre rapidement un terme à la paix. Donc, on peut dire d'une certaine manière que les Russes ont la main.
Alors, pour l'instant, d'ailleurs, l'administration Trump évoque des conditions qui sont celles de la Russie, hein, c'est-à-dire l'abandon de certains territoires par l'Ukraine et l'engagement de Kiev de ne pas rejoindre l'OTAN. Au-delà de questions strictement territoriales, est-ce que Vladimir Poutine a un intérêt à ce chaos qu'on commence à voir se dessiner avec un Donald Trump qui ne semble vraiment pas du tout ménager des pays qui sont supposés être des alliés ?
Tout à fait. La position, évidemment, on le voyait bien, Poutine attendait l'élection américaine, il espérait l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les questions territoriales sont réglées, la Russie gardera les territoires qu'elle a conquis. Et la question qui va être l'essentiel de la négociation, c'est le statut du reste de l'Ukraine. Certes, comme les Américains l'ont dit, l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN, mais est-ce qu'il y aura une forme de garantie de la sécurité de l'Ukraine ? Car si l'Ukraine est neutre, comme les Russes le demandent, cela voudrait dire que l'Ukraine sera vassalisée par la Russie, deviendra une seconde Biélorussie. Donc, quelle sera la garantie de sécurité ? Le diable est dans le détail. Est-ce que les Américains, est-ce que Donald Trump, en réalité, sera assez dur pour essayer d'arracher à la Russie quelque chose de significatif. Mais vous le voyez bien, nous les Européens qui serons appelés à financer la reconstruction et peut-être à assurer la sécurité de l'Ukraine, nous ne sommes plus que des spectateurs.
Ça représente un changement de ligne diplomatique vraiment très important de la part des États-Unis. Un tel changement que le journal Le Télégraphe va même jusqu'à dire, par exemple, que le président américain est devenu un agent involontaire de la Russie. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je pense que ça va plus loin que ce genre de propos polémiques. Lorsque Donald Trump invite en visite d'État Vladimir Poutine à Washington, lorsqu'il accepte d'aller à Moscou, le message est clair. Le droit international n'a aucune importance. Ce qui compte seulement, ce sont les rapports de force. C'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître devant les Européens un peu ahuris, le monde d'une jungle, et le rêve européen d'un monde dirigé par le droit, le compromis, est en train de s'évanouir. Et il faut que les Européens se réveillent.
Alors, dans ce nouveau monde, il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé, c'est la Chine. On sait que c'est la préoccupation principale de Donald Trump. Il a dit d'ailleurs la nuit dernière vouloir parler de dépenses de défense avec Moscou et Pékin. Qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça ?
Je pense que, de nouveau, Donald Trump apprécie beaucoup les dictateurs, les dirigeants forts, parce qu'il pense qu'avec eux, c'est plutôt facile de parvenir à des compromis, là, c'est la raison pour laquelle il répète qu'il s'entend bien avec Vladimir Poutine. Il avait fait la même chose avec le dirigeant coréen. C'est un réaliste pur qui vit uniquement sur la base des rapports de force, et donc il veut avoir une négociation entre quatre yeux avec le Chinois.
Ça pourrait fonctionner ?
Bah pourquoi pas une négociation où, le droit international n'aura aucune importance. Parce que le rapport de force, Donald Trump a un génie qui est celui de comprendre les rapports de force, et il les utilise sans aucun scrupule et sans aucune limite. Or, les Chinois dépendent du marché américain. Vous savez, lorsque vous avez un excédent commercial de 500 milliards de dollars comme les Chinois l'ont, en réalité, c'est les Chinois qui sont vulnérables. Trump peut espérer arracher des concessions des Chinois.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. Merci.
Au revoir.
Autre conséquence de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, de ses coupes dans les dépenses publiques cette fois. Partout dans le monde, on souffre de la suspension de l'agence de développement USAID qui entraîne l'interruption de différents programmes humanitaires. Au Kurdistan irakien, dans une région qui accueille toujours des centaines de milliers de déplacés, les ONG sont tout simplement sidérées. Reportage de notre correspondant Lucas Lazo avec les équipes du service jésuite pour les réfugiés dans le camp de Sharia.
Dans les couloirs du centre psychosocial du camp de Sharia, les rires des enfants ont disparu. La suspension de l'aide humanitaire américaine a porté un coup fatal à ce sanctuaire pour les milliers de familles de la minorité yézidi, victimes des persécutions de l'État islamique et qui vivent depuis 10 ans dans ce camp du Kurdistan irakien. Houaïda, la directrice des lieux, nous ouvre ses portes.
La situation est très sad, honestly. If you see the center, it's empty. Usually we used to have many people there visiting the center asking for support, but after the suspense from the
Les bureaux sont désertés. Sur 81 salariés, l'ONG jésuite qui gère le centre depuis 2014 a rompu du jour au lendemain la moitié des contrats. À l'étage, Ikram travaille pour 5 et s'inquiète de l'avenir d'une communauté à laquelle ce programme offrait un soutien encore trop rare en Irak.
Now in my waiting list, I have more than 400 people. They are in need for psychotherapy. They need psychiatric medication. Leaving them like that, they tell them like they give up on us. They didn't do anything for us. Maybe we will destroy this trust.
Zéré est déplacée depuis 10 ans avec ses enfants. Les visites au centre sont toujours un soulagement avant de regagner sa tente. Prise au dépourvu par la nouvelle, elle confesse son angoisse. Dans l'intimité d'une salle de consultation, une maman accompagnée de sa petite fille revient sur les traumatismes qui la hantent et qu'elle essaye d'apaiser avec les équipes du centre. L'ONG jésuite, financée aux trois quarts par les États-Unis, a choisi d'interrompre la plupart de ses programmes de manière à maintenir tant bien que mal les soins pour les personnes les plus fragiles comme cette femme. Mais faute de financement durable, le centre pourrait bien fermer définitivement ses portes. Lucas Lazo, de retour de Sharia, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos informations sur l'appli RFI Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr. Vous restez avec nous, RFI Midi se poursuit dans quelques secondes maintenant avec l'actualité africaine et puis à partir de 13h temps universel, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Le fonio fait partie des aliments de base en Guinée. Si cette céréale est longtemps restée à la seule consommation des ménages dans les zones rurales, elle est devenue ces dernières années une culture commercialisée. Mais malgré une mécanisation partielle, des difficultés demeurent dans la chaîne de production.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI. L'épopée des musiques noires.
Après New York et Los Angeles, l'auteur Philippe Rossa, passionné par l'histoire du rock, nous présente les hauts lieux de Chicago. On y redécouvre un passé glorieux, celui des pionniers du jazz, du blues, du gospel, de la soul et même de la house music. Avec son livre Streets of Chicago, il met en lumière des bâtisses, des rues et des avenues arpentées pendant des décennies par les témoins et acteurs de l'épopée des musiques noires. Rendez-vous ce samedi avec Joe Farmer à 13h31.
RFI.